Radio Prague, les informations.
Les inondations frappent de nouveau la Moravie. Ce samedi 27 juin était la journée des victimes du régime communiste. Au tournoi de Wimbledon, les Tchèques Tomáš Berdych et Radek Štěpánek se sont qualifiés en 8e de finale. Les inondations ont de nouveau frappé la Moravie, partie est de la République. 18 villages situés dans la partie nord de la région de Jesenice-Kunt étaient particulièrement touchés. Un sapeur-pompier a trouvé la mort lors des travaux de sauvetage. Le bilan des inondations qui ont touché la Tchéquie s'est alourdi à 12 morts. Des pluies ont causé des dégâts matériels aussi dans le sud de la Bohême. Le service météorologique annonce de nouvelles intempéries. Les orages pourraient apporter des pluies torrentielles, des rafales et de la grêle, annonce l'Institut hydrométéorologique tchèque dans ses prévisions. Ce samedi était la journée des victimes du régime communiste. Cette journée a été proclamée en souvenir de Milada Horáková, ancien député qui a été exécuté par le régime communiste le 27 juin 1950. Des actes de piété ont eu lieu à cette occasion à différents endroits de la capitale en vue de rappeler aussi d'autres victimes des procès staliniens qui se sont déroulés dans le pays dans les années 50 et lors desquels 248 personnes ont été condamnées à mort. Ce lundi, le président de la République Václav Klaus recevra au château de Prague son homologue slovaque Ivan Gašparovič. Ce sera la première visite étrangère officielle de ce dernier depuis sa deuxième investiture présidentielle. Miloš Zeman, ex-premier ministre et ex-président du Parti social-démocrate, envisage un éventuel comeback dans la haute politique. Selon l'édition de ce samedi du quotidien Pravo, Zeman sera prêt à constituer un nouveau parti politique de gauche au cas où serait créée une grande coalition entre l'ODS et le Parti social-démocrate suite aux résultats des élections anticipées d'octobre prochain. Inauguré solennellement vendredi soir à Prague, en présence du titulaire du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, la conférence internationale sur le sort des biens des victimes de l'Holocauste se poursuit par des travaux dans des groupes thématiques. La conférence dure 5 jours. Prague accueille les championnats d'Europe des musiques d'instruments avancés. C'est pour la première fois que cette manifestation, qui est à sa 10e édition, se tient en République tchèque. Au tournoi de Wimbledon, 2 tennismen tchèques se sont qualifiés en 8e de finale. D'abord, Tomáš Berdych a battu au 3e tour le russe Nikolaj Davidenko. Et puis, Radek Štěpánek a battu en 5-7 l'espagnol David Ferrer. Météo ce dimanche, le ciel demeurera en partie dégagé, mais des pluies et des orages pourront apparaître, notamment dans l'après-midi et dans la soirée. Les températures diurnes vont se situer autour de 26 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Les vacances sont là et c'est le temps des voyages. Cette émission se veut aussi une invitation au voyage littéraire en compagnie de l'homme qui a révolutionné la littérature du XXe siècle. C'est grâce à Judita Matejášová et Jan Jindra, auteurs d'un livre sorti aux éditions Academia, que nous pouvons retracer aujourd'hui les voyages de Franz Kafka et voir sur les photos l'état actuel des lieux que l'écrivain a visités. En feuilletant le livre « En voyage avec Franz Kafka », le lecteur se rend compte que le grand écrivain n'était pas ce qu'on appelle un sédentaire. Une 60aine de photos de Jan Jindra avec des commentaires de Judita Matejášová montrent des villes, des villages, des maisons, des appartements et des paysages liés au nom de l'auteur du procès et du château. Tous ces lieux sont mentionnés dans les documents sur la vie et l'œuvre de Kafka. Cette suite de photos forme un ensemble qui est aussi une espèce de biographie. Elle raconte à sa manière la vie d'un homme qui, malgré sa gloire posthume, reste encore un célèbre inconnu. Pour l'auteur des textes de ce livre, Yulita Matyashova, il n'a pas été facile de faire le choix des localités photographiées, choix qui devait obéir à deux critères.
Il devait y avoir encore quelque chose d'authentique de l'époque de Kafka qui était photographiable et il fallait trouver aussi quelque chose comme l'histoire du site photographié. Nous avons décidé de présenter les voyages de Franz Kafka dans l'ordre chronologique. Mais bien sûr, le lecteur n'est pas obligé de respecter cet ordre et peut sauter d'un passage à l'autre. Nous y présentons 65 lieux visités par Kafka qui sont situés à Prague et en Bohême, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France et en Suisse.
Nous pouvons donc suivre pas à pas l'existence de l'écrivain depuis son début dans la vieille ville de Prague. Nous découvrons la localité que des membres de sa famille ont habité bien avant sa naissance, sa maison natale, les écoles qu'il a fréquentées, les appartements qu'il a habités. Le livre nous amène dans les villages de Rostock et de Libiechov où le petit Franz passait ses vacances, dans les cafés et les théâtres de Prague. Certaines maisons sont délabrées ou complètement remaniées, mais il y en a beaucoup qui ont gardé leur aspect du début du XXe siècle. Yulita Matyashova rappelle que d'autres maisons dans lesquelles s'est déroulée la vie de Franz Kafka ont été démolies ou sont menacées de démolition.
Je dois dire que nous avons réussi à photographier deux endroits à la dernière minute. Il s'agit de l'ancien bureau de Franz Kafka à la caisse d'assurance Generali, place Wenceslas à Prague, et la seconde localité se trouve en Allemagne, à Graal-Müritz. Il s'agissait d'une espèce de colonie de vacances où Kafka a rencontré son dernier amour, Dora Diamant. C'était deux ou trois baraques en bois et la ville avait besoin de ce terrain pour y faire des travaux de construction. Les baraques ont donc été démolies.
Franz Kafka aimait voyager. Il a entrepris plusieurs voyages avec son ami Max Brod et son frère Otto. C'est avec eux qu'il s'est rendu à Riva del Garda en Italie en 1909 et à Paris, ville qui l'a beaucoup impressionné et qu'il a visité successivement dans les années 1910 et 1911. Sur les photos, l'hôtel où l'écrivain est descendu lors de sa deuxième visite de la capitale française est pratiquement inchangé, mais il faut dire que la photo a été prise juste avant une reconstruction générale de l'immeuble. Parmi les autres destinations de Franz Kafka, il y avait par exemple Vérone, Venise, Zurich, Lucerne, Berlin, Dresde, Weimar et Vienne. Cependant, Yudita Matyashova ne voulait pas consacrer son livre uniquement à Kafka.
Le livre est, si j'ose dire, beaucoup plus complexe parce qu'il montre la situation historique, la gloire des sites que l'écrivain a visités. En ce qui concerne la personnalité du romancier, j'ai été surtout intriguée par le fait qu'il ne s'intéressait pas seulement à la culture, comme d'aucuns pourraient le penser, mais que l'éventail de ses intérêts était beaucoup plus large.
Les intérêts de Franz Kafka étaient nombreux. Il s'intéressait vivement à toutes les inventions modernes, par exemple au cinéma et aux avions. C'est à Brescia, en Italie, qu'il a fait son unique reportage après avoir assisté à un meeting aérien qui lui a permis de voir pour la première fois dans sa vie les aéroplanes et les aviateurs, dont le célèbre Blériot. La photo de Brescia permet à Yudita Matyashova de rappeler une autre facette de la personnalité du romancier.
Ce qui est intéressant de savoir dans ce contexte, c'est que le travail que Franz Kafka a exécuté l'obligeait à penser comme un technicien. Il devait examiner les détails techniques de diverses machines et ce reportage fait ressortir justement ces aspects-là. Il suivait par exemple des cours de mécanique et son regard est donc celui de quelqu'un qui est assez instruit dans ce domaine.
Thank you. Les photos témoignent également de la partie moins connue de l'existence de l'écrivain, celle d'employés dynamiques de la caisse d'assurance Assicurazioni Generali, jeune homme qui, d'après Julita Matyášová, semblait promis à une brillante carrière.
Son travail consistait surtout à examiner les conditions et la sécurité du travail dans les usines. Évidemment, les usines étaient des propriétés privées. Les industriels payaient à la caisse d'assurance une certaine somme dont le montant était fixé selon certaines données. Mais la réalité était souvent bien différente de ces données officielles. Dans les usines, il y avait par exemple des machines usées, ce qui provoquait des accidents de travail. Le travail de Kafka n'était donc pas du tout rébarbatif. Au contraire, il a rapidement réussi à progresser dans sa carrière. On lui a confié les territoires de Bohême du Nord, qui à son époque étaient très prospères. Surtout les villes de Liberec et de Jablonec étaient en ce temps-là de véritables puissances industrielles.
À la fin du livre se multiplient des photos de sanatorium où Franz Kafka s'est rendu pour soigner sa tuberculose. Nous savons aujourd'hui que c'était un effort voué à l'échec et que la maladie allait emporter l'écrivain à l'âge de 40 ans. Pour plusieurs générations de lecteurs, Kafka personnifiera l'angoisse et la frustration. Le livre de Jan Indra et de Judita Matyášová démontre cependant que l'auteur du procès n'était pas qu'un ascète de la littérature replié sur lui-même, mais un homme dont la vie était riche et variée, qui aimait les voyages et admirait le progrès technique et qui, malgré ses angoisses, restait ouvert au monde. Je vous ai présenté le livre « En voyage » avec Franz Kafka. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Anna Kubišta qui a collaboré à cette émission, ainsi qu'à Irena Viernochová, réalisation technique, et à Aleš Pezl, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
La semaine écoulée a été marquée par la fin de l'année scolaire en République tchèque et dans d'autres pays européens. Pour des milliers d'écoliers et d'étudiants, c'est donc le début des grandes vacances et pour nous, l'occasion de nous intéresser au système éducatif en République tchèque. D'abord, dès l'âge de 2 ans, et comme en France par exemple, les petits Tchèques peuvent se rendre à l'école maternelle.
Mateřská škola.
Il s'agit là de la dénomination officielle, car plus généralement les Tchèques, petits comme grands, parlent plutôt de
školka,
qui est un diminutif de
škola,
école, et que l'on peut donc traduire comme petite école. Une
školka
qui se charge de l'éveil et de la socialisation des enfants qui restent jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 6 ans et fassent leur entrée à l'école primaire. Avant cela, notons, comme nous l'indique d'ailleurs, une certaine ressemblance phonétique entre les deux mots, que comme pour le mot « école » en français, l'étymologie de
« škola »
est latine et même grecque. Le mot tchèque tire en effet son origine du latin médiéval
« škola »
qui lui-même provient du latin classique
« škola »,
évolution du mot grec
« škole »,
institution où l'on s'adonnait aux études dignes d'hommes libres consacrant leur temps à la philosophie et à la vie publique. Mais revenons à nos écoliers tchèques. À partir de 6 ans, ceux-ci entrent donc à l'école primaire.
« Základní škola »,
soit le premier degré de l'enseignement. On pourrait également parler d'école fondamentale, initiale, élémentaire ou de base, l'adjectif
« základní »
pouvant posséder toutes ces significations à la fois. À cette école de base, les élèves
« žáci »
apprennent tout d'abord les bases
« základy »,
c'est-à-dire lire,
číst,
écrire,
psát
et compter.
Počítat.
Et à propos de ces bases, notons que si le mot français « alphabet » provient du bas latin «
alphabetum »,
qui lui-même prend son origine du grec
alpha
et
beta,
soit les deux premières lettres grecques. En revanche, en tchèque, alphabet se dit
Abetseda,
littéralement l'ABCD, est tout simplement donc la suite des quatre premières lettres de l'alphabet latin. Cíle učit palici mi hučí, prej hejnu se mi žlučí a proto za to ručím, mě teď mučí pořád víc. Et concernant l'apprentissage des connaissances de base, l'instruction élémentaire,
základní vzdělání,
en République tchèque, cet enseignement est divisé en 9 classes que chaque élève
Jacques
est tenu de suivre. À 6 ans, l'enfant rentre au premier niveau dans une classe que l'on pourrait traduire comme étant la première.
První třída.
Un système quelque peu comparable à celui en vigueur en Belgique. En France, cela équivaut à la classe préparatoire. L'éducation scolaire se poursuit ensuite en deuxième.
Druhá třída.
En troisième.
Třetí třída.
Puis ainsi de suite jusqu'à la dernière étape, la neuvième.
Devátá třída.
C'est-à-dire la troisième dans l'enseignement secondaire en France. Toutefois, si un enfant est doué et qu'il aime apprendre, il n'est pas obligé de passer ses 9 classes, niveaux, dans la même école, à 11 ans, après sa 5e, soit la deuxième année de cours moyen en France qui marque la fin de l'école élémentaire, ou 2 ans plus tard, à l'issue de sa 7e, il peut rejoindre ce que les Tchèques appellent
gymnasium,
établissement qui regroupe en fait ce que l'on connaît comme collège et lycée et propose un enseignement général. Pour y accéder, les élèves candidats doivent toutefois passer des examens d'entrée. Les élèves peuvent également choisir de prendre une autre orientation en allant user leur fond de pantalon sur les bancs d'école proposant diverses spécialisations, formations, par exemple économie, mécanique ou artistique. On parle alors de
střední odborná škola,
soit littéralement quelque chose comme école moyenne, professionnelle, spécialisée ou technique. Mais qu'il s'agisse du
gymnasium
ou de
střední odborná škola,
on est désormais dans le domaine de l'enseignement secondaire. Celui-ci se conclut par un examen final appelé
maturita,
qui porte bien son nom, puisqu'on pourrait le traduire comme examen de maturité et qui est l'équivalent du baccalauréat en français. Enfin, une fois cette formation secondaire achevée, 2 possibilités s'offrent aux jeunes élèves tchèques. Soit ils choisissent d'en rester là et d'entrer dans la vie active en cherchant un emploi, soit ils tentent de poursuivre des études supérieures. Když ráno vstáváš, že prostě máš držet hubu, sklopit hlavu, zmizet v davu akorát. C'est donc avec la
maturita
en poche que se referme ce tchèque du bout de la langue consacré à la présentation du système éducatif tchèque. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux expressions de la langue tchèque relatives aux chiffres. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, courrier des auditeurs exceptionnel aujourd'hui puisque nous annonçons le nom du vainqueur du grand concours de Radio Prague et c'est une femme. Elle s'appelle Claire Lebris-Sepp. En fait, elle s'appelle Clara Tchepova. Claire Lebris-Sepp, c'est son adaptation en français, l'adaptation de son nom en français. Et je vous lis tout de suite le courrier qu'elle nous a envoyé et grâce auquel elle a remporté le grand concours de Radio Prague. Je vous répète la question qui était posée. Quelle date, quelle époque ou quel événement de l'histoire tchèque vous a le plus impressionné? Et je vous lis maintenant la réponse de Claire Lebris-Sepp, alias Clara Tchepova. L'été de mes 13 ans, mes parents avaient loué une maison en Sologne pour les vacances. Mon frère rentrait juste d'un séjour dans le pays natal de mon père. Le premier de la famille, comme en éclaireur, il avait fait la connaissance de nos 5 oncles et tantes et de nos 15 cousins et cousines. Il était même question que nous y retournions ensemble tous les 4 l'an prochain. Je dois dire qu'en Tchécoslovaquie, avant qu'il ne la quitte, mon père était un écrivain connu. Il n'était pas vraiment engagé en politique, mais sa littérature, largement inspirée par la foi catholique et ses fréquentations d'intellectuels occidentaux, ne plaisait pas au régime de l'époque. Pour échapper à la prison, il fut obligé de fuir, passant la frontière clandestinement, en rampant sous les barbelés. Sa mère est morte en Moravie, sans qu'il ait pu la revoir. Et après 20 ans d'exil, pour la première fois, un espoir. La situation là-bas évoluait doucement. Mon père n'osait pas y croire encore lui-même, mais nous tous autour de lui nous imaginions déjà retourner un jour à Mislechovice pour embrasser ses frères et sœurs. Ce matin-là, je me suis levé comme les autres jours pour rejoindre mes parents pour le petit déjeuner. Rien n'était comme d'habitude, quelque chose était arrivé, je ne savais pas encore quoi. Ma mère cachait mal ses yeux gonflés et son mouchoir, mon père était assis, fermé, la tête penchée en avant comme pour s'isoler de nous. Le plus surprenant, c'était la radio allumée, si tôt le matin. Je ne comprenais rien, je ne voulais pas comprendre ces mots qui sortaient du haut-parleur. Ils s'emparaient de la pièce et de notre vie, ils parlaient de tanks, de soldats russes, d'invasion. Ils décrivaient la foule dans les rues de Prague, les barricades et les morts. Lentement, je réalisais que mon père ne reverrait jamais plus sa terre natale. C'était le 21 août 1968. C'était donc la réponse envoyée par Claire Le Bricep ou Clara Tchepova. Merci et félicitations à elle. On écoute un tout petit peu de musique et on revient avec d'autres réponses.
Až tak zapomeň cestu zpátky, cestu zpátky. Naše noc je mladá, vanejšní vítr, papírový křídla vzduchem víří. Řekni, co bys ráda, než nám ráno plány skříží. Budem nekonečně dlouhou sametově černou tmou. Budem nekonečně dlouhou sametově černou. Vapam, pirapam. Dám si ruce do kapes, wampam, pirapam. Dlouhej kouř a pohodeček, wampam, pirapam. Neštěkne po mně ani pes, padám a nevím kam. Nečekej, že ti zavolám.
Je vous rappelle que c'est Claire Le Bricep. J'ai oublié de préciser d'où elle nous avait envoyé son courrier. C'était un email d'ailleurs et c'était de Chanteloup-les-Vignes. Bravo encore Claire Le Bricep. Je vous lis maintenant plutôt les réponses, quelques réponses de certains qui sont arrivés en finale de notre concours. Et par exemple, le email envoyé par Aurélie Serfati-Berkoff. Bonjour, à la question quelle date, quelle époque ou quel événement de l'histoire tchèque vous a le plus impressionné, je donnerai une date qui compte pour moi, le 3 juillet 1883, date de naissance d'un des plus grands écrivains de la littérature moderne, Franz Kafka. C'est grâce à Kafka que j'ai découvert Prague, et grâce à Prague que j'ai découvert Kafka. Cela fait maintenant 11 ans que je vis cette histoire d'amour avec l'écrivain et la ville, et ils sont pour moi intimement liés. La lettre que je vous joins essaie d'expliquer cette fascination que j'ai pour ce grand écrivain et pour Prague, ma ville de cœur et d'âme. J'espère qu'elle vous intéressera et vous touchera. Merci de votre attention. C'était signé Aurélie Serfati-Berkoff. Je n'ai pas le temps de vous lire toute sa lettre, mais ça fera l'objet peut-être d'un prochain courrier des auditeurs. Encore une réponse avant de nous quitter, il nous reste quelques minutes, et une réponse envoyée par Sylvain Adeline de France, me semble-t-il, même si c'est un email et qu'il ne donne pas son lieu de résidence. Bonjour, je m'appelle Sylvain Adeline, je suis français, j'ai 29 ans, je suis artiste sous le pseudonyme Cyrano. Adorant la musique classique, j'ai découvert la Tchéquie au travers de Smetana et de la Moldau. Je ne savais pas comment répondre à la question du concours de manière profonde, puisque comme beaucoup d'entre nous, le fait de l'histoire tchèque qui me vient à l'esprit est le 16 janvier 1969 et l'immolation par le feu du jeune Jan Palach, symbolisant à jamais pour la jeunesse tchèque, mais aussi pour le monde entier, la résistance à l'oppression, la force de l'esprit et des idéaux, la puissance des actes humains de la protestation et du sacrifice. J'ai donc écrit une chanson en hommage à Jan Palach, modestement. Je vous envoie le résultat en pièce jointe. On écoutera la chanson envoyée par Sylvain Lynn dans une prochaine émission, parce que c'est déjà terminé malheureusement. Et on a encore des réponses à lire. Ce sera la semaine prochaine et ce sera sûrement avec Magdalena Rosinkova. Merci à toutes et à tous de votre attention. Encore un grand bravo à Claire Lebris-Sepp pour avoir remporté le grand concours 2009 de Radio Prague. Au revoir, nasledanou.
Halo, kdo je tam? Po zaznění tónu mi zanechte zprávy a buďte zdraví. Halo, nejsem doma, no je to fakt bída. Volané číslo vám neodpovídá. Polevím z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček. Půl dne noviny číst a pak cigáro. Pohoda, klídek, leháro. Nejspíš jsem jenom línej, čím dál víc. Neřešte to, pane, to je případ ztracenej. Doufám jen, že z toho nejste vykolejenej. Dávám jednu dobrou radu k nezaplacení. Neřešte to, pane, tohle nemá řešení. Polevím z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček. Vzpomínat na to, co se událo, chci to tak mít, nejmín nastálo. A nejspíš jsem jenom lídej, čím dál víc. A volané číslo je opojené a bude odpojené, žádný nežere. Volané číslo, včetně mojí tváře, vymažte ze svýho adresáře. A pokuste se bářit nešťastně, všude se dočítám, že umřu předčasně. A taky vím, že otěžuju okolí, čekám konec, zatím nic nebolí. Víceméně se to dobře vyvíjí, život je návykovej a někdy zabíjí. Polevím z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček. Vzpomínat na to, co se událo, chci to tak mít, nejmíň nastálo. Nejspíš jsem jenom línej, čím dál víc. Volané číslo je opojené a bude odpojené, žádný nežere. Volané číslo včetně mojí tváře, vymažte ze svýho adresáře. A pokuste se tvářit nešťastně, všude se dočítám, že umřu předčasně. A taky vím, že obtěžuju okolí, čekám konec, zatím nic nebolí. Víceméně se to dobře vyvíjí, život je návykovej a někdy zabíjí. Víceméně se to dobře vyvíjí, život je návykovej a někdy...
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11.